David Rigoulet-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique et vous avez dirigé un recueil d'articles qui s'intitule « La République islamique d'Iran en crise systémique » qui est publié chez l'Harmattan. Alors aujourd'hui, justement, comme bien souvent avec vous, eh bien on va parler de l'Iran et des récents événements qui y sont liés parce que récemment aux États-Unis, l'administration Biden a estimé que la vente par l'Iran de drones à la Russie pour l'aider dans son invasion de l'Ukraine signifie que l'Iran pourrait contribuer à des crimes de guerre généralisés. Alors ma première question, elle sera très simple. Quel est votre avis sur cette accusation de Washington ?
Alors, c'est une déclaration qui a été faite par le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, hier, et donc qui est particulièrement ferme et qui considère que l'Iran a décidé de s'engager dans une voie où, je cite, les armes seraient utilisées pour tuer des civils en Ukraine, de plonger les villes dans le froid et l'obscurité, ce qui placerait l'Iran dans une situation la rendant potentiellement coupable de crimes de guerre généralisés. Donc c'est une accusation grave qui fait écho à une déclaration qui avait été faite par les autorités, par le ministère des Affaires étrangères ukrainien en novembre dernier, qui disait que lorsque Téhéran avait reconnu avoir livré des drones effectivement à la Russie, en précisant que c'était avant le début de la guerre, et à l'époque le ministère ukrainien avait considéré que Téhéran devrait se rendre compte que les conséquences de la complicité dans les crimes de la Russie ne serait pas bénéfique justement à Téhéran. Donc c'est effectivement la confirmation d'une criminalisation d'une belligérance d'une certaine manière indirecte de plus en plus directe de l'Iran dans le conflit.
Alors, dans un autre sujet, finalement, mais toujours relatif à l'Iran, on le sait, les négociations sur l'accord nucléaire iranien sont totalement au point mort depuis un moment. De plus, le président américain Joe Biden a avoué à demi-mot que l'accord était mort, mais qu'il ne l'annoncerait pas officiellement. Alors, quel est le but, finalement, de ne pas annoncer officiellement cela, si l'accord il est réellement mort ?
Bah, en fait, sa déclaration s'est faite de manière un peu inopinée, comme c'est souvent le cas avec le président Joe Biden. C'est une déclaration qui aurait été une réponse à une question d'une américaine au moment des midterms américaines, justement début novembre 2022 en Californie. Irano-américaine qui critiquait justement les discussions qui avaient eu lieu précédemment avec Téhéran, il aurait répondu à ce moment-là que l'accord était mort, mais que nous ne l'annoncerons pas parce que l'acte de décès, effectivement, constituerait un précédent en matière publique, publicitaire, ce qu'il ne souhaitait pas forcément faire, mais ça a été le cas parce que la déclaration a été relayée. Et de toute façon, c'est la confirmation de ce qu'avait dit déjà le négociateur Robert Malley, qui était le représentant spécial des négociations des Américains avec Téhéran, qui devait être relancé dès l'accession à la présidence de Joe Biden, et qui au début, Robert Malley, était très optimiste, et puis qui aujourd'hui considère que finalement l'accord est devenu caduque et que l'enjeu est ailleurs, notamment dans le soutien à la contestation et notamment dans le soutien technique à la possibilité pour les contestataires, les activistes iraniens de pouvoir communiquer via Internet.
Mais la volonté de l'administration Biden, c'était tout de même au début de réintégrer l'Iran à l'accord sur le nucléaire iranien. On voit que c'est plus vraiment le cas suite aux dernières exigences de Téhéran. On sait que les relations entre l'Iran et les États-Unis ne sont pas bonnes. Lors des pourparlers à Vienne, les deux pays communiquaient indirectement. Mais finalement, les dernières accusations de Washington comme quoi l'Iran participerait aux crimes de guerre en Ukraine, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais est-ce que ça ne risque pas finalement d'encore plus détériorer les relations entre Téhéran et Washington ?
D'une certaine manière, ça acte cette détérioration qui est avérée et qui acte l'impasse sur le nucléaire. Donc, du point de vue de l'administration américaine, c'est pour marquer de manière publique une posture beaucoup moins conciliante qu'elle n'a été justement au début des négociations. Et d'autant moins conciliante que la participation de l'Iran via ses livraisons de drones internationalise le conflit en Ukraine, ce qui est la crainte évidemment de la communauté internationale et des États-Unis au premier chef.
Et actuellement, tous les regards sont souvent tournés vers l'Iran à cause de la situation dans le pays. Les importantes manifestations qui ont suivi la mort de la jeune Mahsa Amini en septembre dernier montrent de plus en plus que le peuple veut se rebeller contre le régime des ayatollahs et la communauté internationale fustige elle aussi la République islamique de plus en plus souvent. Mais le régime iranien continue sa répression violente avec des condamnations à mort en série pour l'heure. Est-ce que le régime iranien n'isole pas finalement de plus en plus l'Iran, le pays en lui-même, dans la région et aux yeux de tout le monde?
L'Iran est déjà un pays isolé. Il fait figure de plus en plus de pays paria. C'est pas du fait de sa population, c'est du fait de son du régime iranien qui effectivement. Et d'ailleurs, ça explique le renforcement des liens avec Moscou, autre régime isolé, sous sanction. Et en l'occurrence, le régime iranien, effectivement, a été déstabilisé par le début de la contestation à la mi-septembre, avec le décès tragique de Mahsa Amini. Et depuis lors, il est confronté à une contestation inédite dans sa forme et dans ses revendications. Parce que pour la première fois sont apparus les slogans de remise en cause des fondements même de la République islamique. Ce qui n'était pas le cas précédemment, lors des précédents mouvements de contestation. Donc effectivement, le régime, il a réagi comme il a toujours réagi, avec son logiciel répressif, qui est en essayant, avec un certain nombre d'atouts quand même, qu'il a à sa disposition, notamment le fait que cette contestation est horizontale, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de... Elle est décentralisée et elle n'a pas de tête. Et donc, c'est à la fois sa force et son handicap, d'une certaine manière, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'alternative politique qui puisse se présenter pour se substituer au régime en question. C'est là-dessus qu'évidemment ce régime, le système, Nezam, joue. Et il articule cette répression en dosant assez habilement, d'une manière cynique et tragique, les mesures de condamnation à mort et puis d'apparentes mesures de clémence par ailleurs en libérant des personnalités justement comme Tavakoli ou Ronahi.
Et par rapport aux contestations, eh bien certains experts, certains analystes parlent d'une véritable révolution en Iran, comme ça faisait bien longtemps qu'on n'en avait plus jamais connu. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment l'impression que le régime va tomber malgré tout ?
Le régime est condamné à terme, parce que de toute façon, il fonctionne, il est hors sol par rapport à sa population. Mais ça ne veut pas dire qu'il va tomber de manière immédiate, bien sûr. Je disais tout à l'heure qu'il jouait sur le fait qu'il n'y avait pas d'alternative, qu'il avait toujours joué dessus, et qu'il profitait de l'absence en fait, d'expression politique constituée en face. Ce qui explique sa stratégie sur la durée, parce qu'effectivement, pour la première fois, il y a un processus à caractère révolutionnaire, mais qui n'est pas à proprement parler une révolution, parce que les gens ne sont pas descendus en masse dans les rues. Donc c'est une guerre d'usure en réalité qui se joue entre deux déterminations, celle de la contestation qui ne se reconnaît plus dans le régime et puis le régime qui compte justement sur les atouts dont il dispose encore pour se maintenir.
Merci beaucoup David Rigouleros d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut français d'analyse stratégique ainsi que rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Je rappelle également à nos auditeurs que vous avez dirigé un recueil d'articles qui s'intitule « La République islamique d'Iran en crise systémique » publié chez L'Harmattan. Merci beaucoup pour vos éclairages. Merci. À très bientôt.